I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Avant, j'étais très sportive, toujours torturée par mon apparence physique et très matérialiste. Et depuis le 26 avril 2018, je suis une rescapée. On est en 2018. Je travaille dans l'industrie du luxe en tant que responsable commercial. Donc à Paris depuis à peu près une quinzaine d'années, mais je suis niçoise. Et je suis enfermée en fait dans un monde que je trouve trop matérialiste, trop parisien. Et je me pose beaucoup de questions. Et c'est à ce moment-là que je décide en fait de faire une rupture, de tout quitter et de prendre un congé sabbatique de 6 mois. Alors moi, j'ai grandi à Nice, dans un environnement vraiment très famille. J'ai un grand frère, une petite sœur. On est très proches, très liés. J'ai atterri à Paris parce qu'en fait, j'ai fait une école de commerce à Nice. Et ensuite, j'ai voulu me spécialiser en marketing du luxe. Et le master que je voulais faire était à Paris. Donc c'est là que j'ai commencé à déménager. On est en 2007 à l'époque. C'est un peu brutal dans le sens où je vivais en maison avec un jardin. Et quand on arrive à Paris, qu'on passe dans des superficies de studio de maximum 30 mètres carrés, là, ça fait un choc. Je m'y suis faite. Et puis de toute façon, je venais pour les études. Donc j'étais plongée dedans. C'était en cours du soir. Et la journée, j'étais en stage. Donc j'ai commencé chez Lanvin, puis chez Cartier pendant un an en horlogerie, en marketing puis commercial. Ensuite, j'ai fait plusieurs sociétés. Chanel, Fred, Dean Van et ensuite Swarovski. Moi, je suis à l'époque responsable commercial pour Paris, Île-de-France. Donc en déplacement, c'est-à-dire toute la semaine pour pouvoir développer la zone, présenter les nouveautés, faire des analyses de vente, faire de la prospection aussi. C'est un métier qui me plaît beaucoup. Au départ, quand j'ai commencé mes études, j'étais vraiment focalisée sur le métier, enfin la fonction de marketing du luxe, qui veut tout et rien dire finalement. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la fonction commerciale qui me plaisait le plus parce qu'on avait une relation avec les clients, avec nos partenaires, et que ce n'était pas justement un métier sédentaire derrière un ordinateur lors duquel je me serais vraiment lassée, je pense. Moi, à ce moment-là, je suis très sportive, assez hyperactive, il faut tout le temps que je fasse quelque chose. Je fais beaucoup de yoga, j'ai fait énormément de retraites à l'étranger, des triathlons, la course à pied, la danse. Je faisais vraiment une activité tous les jours, que ce soit à la salle ou autre. Et j'essayais vraiment de concilier travail et sport. C'était un peu plus qu'une hygiène, c'est devenu un peu une addiction. Je me mets beaucoup de pression par rapport au physique. Il faut toujours que je sois la plus fit, la plus mince, qu'il n'y ait plus du tout de gras, que je sois musclée, que je sois comme ci, comme ça. Et si je ne réponds pas à ces codes-là, à ce moment-là, en fait, je m'interdis beaucoup, je m'interdis de sortir. À ce moment-là, je suis pas du tout à l'aise avec mon corps. Donc, c'était vraiment par phase. Soit j'étais très bien, une alimentation impeccable et du sport tous les jours. Soit j'étais dans des phases où rien n'allait. En fait, c'est apparu lorsque j'avais 15 ans. que j'ai commencé à faire des crises de boulimie, d'avoir des troubles très forts du comportement. Et sont suivis justement des prises de poids importantes. Et à partir de là, le rapport au corps a complètement changé, que ce soit dans les extrêmes, que ce soit trop mince ou en surpoids, même si j'étais jamais vraiment surpoids, mais à mes yeux, c'était jamais assez mince. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le sport. Donc c'est pour ça que ça fait partie intégrante de ma vie et de mon quotidien. Je suis depuis donc plusieurs années chez Swarovski, dont une bonne dizaine à Paris. Et là, je sature complètement de ce monde que je trouve matérialiste. Tout va vite, un manque d'authenticité aussi. Et j'avais besoin d'une rupture, j'avais besoin de changer. Et d'un côté, j'ai toujours été passionnée d'Amérique latine et de la langue espagnole. Ce qui me rendait le plus heureuse, c'était de voyager et de parler espagnol. Et donc, je me suis dit, allez, on y va, on tente. Je prends un congé sabbatique de 6 mois. À partir de décembre 2017. Mon projet, c'est de partir toute seule en Amérique du Sud en sac à dos. Faire le tour de tous les pays, d'auberge en auberge, et sans avoir spécialement d'itinéraire tracé, mais d'avancer au fil des rencontres et de planifier au fur et à mesure, ne rien prévoir, ne rien organiser et de me laisser un peu porter. En fait, le but, c'était de partir dans une optique très minimaliste. Dans mon sac à dos, je n'emporte que des tongs, des shorts, des t-shirts. Plus de marques, plus de bijoux, plus de sacs, plus aucun artifice, mais vraiment le basique, ce qui va permettre aussi de me recentrer sur moi et sur les vraies valeurs avec lesquelles j'ai cherché à me reconnecter à ce moment-là. Le jour où je pars, je faisais un peu moins la maligne quand même, parce que c'est vraiment pas facile de tout quitter, les proches, même l'appartement, de tout vider. C'est un vrai changement. Même si je savais que dans tous les cas, je pouvais revenir en arrière si besoin. Enfin, je pouvais revenir plus tôt du moins. Mais voilà, une fois lancé, c'est parti. Je commence par le Brésil, par Rio. Et là, le premier soir, je loge dans un hôtel. Et en fait, ça a été vraiment gros bad en arrivant, tout simplement parce que j'étais toute seule à l'autre bout du monde, avec personne avec qui parler. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas aller directement en auberge de jeunesse. Au départ, je me suis dit, je vais me prendre un hôtel confortable pour être dans des bonnes conditions en arrivant. Mais dès le lendemain, quand je suis allée en auberge, là, je rencontre plein de monde de tout horizon, des Argentins, des Brésiliens, des Colombiens, enfin, vraiment de tout horizon. Et là, je sens que le voyage commence. Voilà. Ensuite, chute d'Iguaçu, donc qui font la frontière avec le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. Donc, je fais l'Argentine, qui est un pays incroyable que j'ai adoré. Vraiment, entre la Patagonie, les vignobles, le désert, c'est vraiment un pays incroyable. Bon, à part leur accent, ça c'est un peu discutable. Ensuite, j'ai fait le Chili aussi, notamment connu pour le désert d'Atacama. Tout au fil de ces voyages, de ces escapades, de ces pays, je fais plein de rencontres. Et la plupart du temps, je rencontre des personnes avec qui je vais faire un petit bout de chemin. Par exemple, j'ai rencontré des Argentins à Rio, que je vais revoir à Buenos Aires un peu plus tard, qui me font visiter leur région, leurs habitudes, leur famille. Toutes ces rencontres m'ont permis aussi de réaliser que je pouvais exister et rencontrer des gens vraiment authentiques, sans marque, sans tous ces artifices qui, pour moi, me valorisaient. Et en fait, je me rends compte que sans rien, en étant authentique, on rencontre aussi des gens qui sont incroyables en face. Et j'ai retrouvé des valeurs d'entraide, de partage et vraiment d'authenticité, que ce soit avec les locaux, qui sont vraiment tellement gentils, bienveillants, sincères, qu'avec les backpackers, tous les voyageurs, en fait. Et là, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant parce que je trouve vraiment un sens dans ce voyage. Ensuite, j'arrive au Pérou. Pérou, un pays incroyable. Moi qui suis une folle de ceviche, c'est le pays du ceviche, j'étais ravie. Pérou, ensuite je me dirige vers la Colombie. Colombie, c'était vraiment un gros coup de cœur parce que ça rassemble tout ce que j'aime. Donc la salsa, il y avait la montagne, il y a les Caraïbes comme l'Atlantique, le désert, c'est vraiment très très varié. Et ensuite, je rejoins un de mes meilleurs amis d'école qui vit au Costa Rica. Donc, on passe un moment ensemble, vraiment chouette. Ensuite, je décide de louer une voiture et de faire moi toute seule le tour du pays que je connaissais un petit peu, mais il y avait plein d'endroits que je connaissais pas encore. Donc là, pareil, d'auberge en auberge. Et puis, un jour, je me dirige sur la côte pacifique dans une station qui s'appelle Tamarindo, donc en auberge de jeunesse toujours. Et le sport local, le sport national au Costa Rica, c'est le surf. Donc j'ai la très bonne idée de tester un cours de surf. J'en ai absolument jamais fait. C'était vraiment le lieu pour le tester, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc je m'inscris à ce cours de surf, cours particulier. Donc directement le lendemain, je viens d'arriver à l'auberge. On se dirige vers la plage. Le prof m'apprend 2-3 bases sur terre, sur la plage, donc pour apprendre à appréhender un petit peu la planche. Et ensuite, c'est parti dans les vagues. Alors j'étais hyper excitée de tester un nouveau sport et surtout le surf, parce que ça a l'air tellement facile quand on voit les gens surfer. Il est 11h, on va en mer, on fait une vague. Je monte sur la planche, impeccable, deuxième vague. Et ensuite, troisième vague, donc je monte sur la planche, une grosse vague passe, et là, mauvaise vague, mauvaise chute, la planche me percute dans le cou, et me propulse la tête au fond de l'eau. Et à ce moment-là, je suis très près du bord, il y a donc très peu de profondeur, et ma tête tape dans le sable, et ça fait l'effet d'un mur de béton. À ce moment-là, ma tête tape au fond et je ne peux plus bouger, je ne peux plus me débattre et je suis complètement paralysée. Je n'entends rien, je suis encore sous l'eau, je ne peux pas me débattre et du coup, je me noie. Je panique, mais je ne peux pas me débattre puisque tous mes membres sont touchés, je suis paralysée et je me noie. La seule image que j'ai en tête, c'est une vision de la couleur violette. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, moi, je perds complètement connaissance, mais on m'apprend plus tard qu'un médecin touriste, en fait, américain, qui était sur la plage, me vient en aide et vient me sortir de l'eau, parce que le prof était en pleine mer et n'arrivait pas à venir plus vite pour me sortir. Et là, on appelle les secours, et je ne respire plus pendant 10 à 15 minutes, jusqu'à ce que les secours arrivent et qu'on m'intube. Et ensuite, on me transfère à l'hôpital. Et là, on joint mes proches en leur expliquant la situation, et notamment qu'il me reste 24 à 48 heures à vivre, parce que des accidents de surf avec des lésions très hautes, parce que j'ai une lésion du coup de la moelle épinière, au niveau cervical, très haute, au niveau des cervicales C1 et C2. Donc en général, les personnes ne survivent pas. Pendant tout ce temps-là, moi je suis inconsciente, je me réveille 2 jours plus tard, du coup à la clinique de la capitale San José, et à ce moment-là, je vois ma famille qui est là, mes meilleurs amis qui sont venus du Canada et de Paris, et celui du Costa Rica, et là je comprends pas trop ce qui m'arrive, je me souviens d'avoir un accident, je me rappelle de tout, mais je ne sais pas pourquoi je suis là, je ne peux plus bouger, j'ai des douleurs mais je ne sens plus mon corps, et je ne peux plus parler parce que je suis intubée, j'ai une trachéotomie. En fait, je comprends qu'il y a quelque chose de grave comme mes proches sont là, mais on ne me communique pas le diagnostic. Je ne sais pas du tout ce que j'ai, à part le fait d'être tombée de cette planche. À ce moment-là, ce dont je ne me rends pas compte, c'est que je suis vraiment enfermée dans mon corps et complètement condamnée, avec un pronostic vital engagé et un diagnostic vraiment désastreux, parce qu'on annonce à mes proches que je suis tétraplégique complète, donc avec aucune mobilité, et une aide respiratoire à vie. Moi, les premières choses que je demande, c'est est-ce qu'on peut me peser, combien je pèse? Donc on revient toujours à la même chose. Et est-ce que je peux boire un mojito? Donc j'étais à fond encore dans le voyage et toujours avec mes lubies de poids et d'obsession corporelle. Je me rends compte que c'est grave ce qui m'est arrivé parce que je vois tous mes proches et je vois qu'ils s'agitent, je vois qu'il y a un problème. Le problème majeur, au-delà de mon état, c'était le fait que je n'avais pas d'assurance. Donc qui dit pas d'assurance dit des frais médicaux exorbitants parce qu'on était dans une clinique privée, mais également un problème au niveau du rapatriement parce que je n'avais pas souscrit d'assurance et donc pas de moyen de me faire rapatrier par Mondial Assistance. Mes amis font marcher leur réseau et il se trouve que deux clients à moi ont été clés dans l'histoire parce qu'ils ont permis de débloquer des fonds et de débloquer un jet médicalisé pour me rapatrier. C'est ma sœur qui a vraiment été incroyable et qui a tout coordonné. Et une fois qu'on avait ces deux éléments-là, donc l'argent et l'avion, le problème, c'était de savoir où j'allais atterrir une fois à Paris. Parce qu'avec le diagnostic que j'avais, aucun hôpital ne voulait m'accueillir en prétextant des problèmes de disponibilité de lit. On m'annonce que je suis clairement miraculée parce que j'aurais dû survivre au maximum 48 heures. Et à ce moment-là, j'étais à 6 jours post-accident. Et même si le diagnostic est très négatif, j'étais encore en vie. En fait, il n'y a pas eu vraiment d'explication pour expliquer que je sois toujours en vie. J'ai fait 3 arrêts cardiaques, une infection pulmonaire, du coma. C'était vraiment heure par heure. Et il se trouve que j'ai survécu, que je suis rescapée. Je n'arrive toujours pas à l'expliquer, mais je ne demande pas du tout ce que j'ai. Pas dans le néni, parce que pour moi, je sais ce que j'ai. J'ai eu un accident de surf, ok, je suis amochée, je ne bouge pas, c'est normal. Et le fait de rentrer à Paris, d'être rapatriée, ça va tout solutionner. Ça va me guérir. Donc là, ma sœur trouve, via son réseau professionnel qui travaille dans un gros labo pharmaceutique, une place à la Pitié-Salpêtrière en neurochirurgie. Qui m'accueille. Donc je suis rapatriée donc avec elle dans l'avion et on arrive enfin à Paris. Sur le moment, je ne mesure pas du tout les conséquences. D'un côté, je suis contente parce que je vois tous mes proches qui sont là. Je vois qu'ils ne sont pas dans un état d'esprit très joyeux, donc je sais qu'il se passe quelque chose d'important. Et en même temps, je suis contente parce qu'on a trouvé une solution pour rentrer et qu'on rentre. Et pour moi, le fait de rentrer, c'est la guérison. Alors que pas du tout. Et là, c'est vraiment là que je me rends compte de la réalité, c'est en arrivant en réanimation. Parce que, ok, je suis ravie, on m'a trouvé une place, mais là, je me rends compte vraiment de la situation, que je suis complètement enfermée dans mon corps. Je peux ni bouger, ni respirer, ni parler, ni manger. La seule chose que je peux faire, c'est bouger le nez, la bouche, les yeux, c'est tout. Et ce que j'ai appris plus tard, parce que je ne me suis pas du tout vue, c'est que pour permettre à mes cervicales brisées de se consolider, qu'on m'avait fixé un halo crânien, donc j'avais 4 vis dans le crâne, relié à un corset. Et voilà, et ça pendant 3 mois, pour permettre aux cervicales de se consolider. En arrivant en fait en réanimation à Paris, les chirurgiens ont trouvé que ma prise en charge avait été exceptionnelle et qu'ils n'auraient pas mieux fait, et qu'ils ne souhaitaient pas m'opérer pour me placer une orthodèse justement dans les cervicales, parce que ça m'empêcherait de bouger le cou. Et ils pensaient que ce serait le seul mouvement qui me resterait pour faire avancer un fauteuil. Donc ça, heureusement que je ne l'ai pas su à ce moment-là, parce que ça m'aurait enlevé toute motivation, je pense. Alors moi, à ce moment-là, donc tout le monde sait ce que j'ai, tout le monde sait ma pathologie, que je suis tétraplégique, mais moi, je ne le demande pas et on ne me le dit pas. Pour moi, je vais récupérer. Pour moi, je sais que ça va être long, je suis complètement enfermée dans mon corps, donc je me pose 1000 questions, mais je vais récupérer, ça va juste être long. Une des premières impressions que j'ai, c'est que je suis punie, en fait, de m'être amusée d'avoir profité ces 5 mois de voyage, de rencontres, d'aventures, de sports extrêmes. Et je vis ça vraiment comme une punition et je trouve ça forcément injuste. On se demande tout le temps pourquoi ça m'arrive à moi. J'étais bien, j'étais en train de changer un peu d'état d'esprit, de vision, de valeur. Et là, d'un coup, une énorme claque, une énorme vague du coup, et me remet dans le droit chemin. Donc je suis à la Pitié, je me rends compte que je ne bouge plus, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, un interne vient me voir et clairement, j'avais une interrogation. C'est de savoir si je pouvais avoir des enfants encore. Donc il vient me voir, il me rassure, il me dit « oui, bien sûr, ce sera possible ». Et là, il m'annonce le mot de fauteuil roulant que je n'avais jamais entendu jusqu'à présent. C'était une option que j'avais jamais envisagée, parce que pour moi, j'allais guérir. Sauf que ce que j'apprendrai plus tard, c'est que la pathologie que j'ai, c'est pas une maladie, on n'en guérit pas. Donc là, on m'apprend que je vais être en fauteuil roulant. Et là, ça a été vraiment un choc, parce que quand on passe d'une autonomie complète à l'autre bout du monde, en voyage toute seule, vraiment libre à 100%, à un enfermement dans son corps, et en plus, pour apprendre qu'on va passer sa vie en fauteuil roulant, c'était beaucoup trop dur. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, je pense qu'il a fait 50% du travail, c'est vraiment le soutien de la famille, des proches, qui étaient présents tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma sœur n'en parlait pas midi et soir, tout le temps. On était vraiment un binôme. Et ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'elle n'a jamais été, jamais, jamais dans le pathos en me disant « ma pauvre, c'est difficile ce qui t'arrive, etc. » Ça a toujours été à me faire des blagues, à me dire que j'étais belle alors que j'avais une dégaine pas possible avec moi, l'eau crânien. Ça a été toujours, on a gardé le même, la même relation, voilà, toujours ludique en faisant des blagues. Le neurochir venait me voir tous les soirs et les autres médecins aussi pour me faire des blagues, pour rigoler avec moi. Parce que c'est vrai que les quatre patients d'à côté étaient un peu moins fun parce qu'ils étaient forcément dans le coma. Donc ça a pas mal égayé mon quotidien, même si les journées étaient longues et que je me posais beaucoup de questions pour la suite. Moi, à ce moment-là, je me demande vraiment ce que je vais devenir parce que j'avais deux projets qui me tenaient à cœur au retour de ces 6 mois de voyage. C'était de faire de la guitare, donc là, c'était mal barré, et de faire plus de danse, notamment plus de salsa. Donc là, ça remettait un petit peu en cause tous mes plans. Et aussi, ce qui m'a vraiment marqué, c'était la confrontation avec le milieu soignant. Parce que j'ai toujours été fière de l'expérience que j'ai eue dans le secteur du luxe, des belles maisons, des beaux postes, etc. Et pour la première fois, j'en ai eu honte quand j'ai été confrontée au secteur du médical. Parce qu'eux sont là pour te sauver la vie, te faire respirer, te faire manger, pour te sevrer de ton appareil respiratoire. Pendant que toi, ton quotidien, c'est de vendre des bijoux. Et quand on me demandait ce que je faisais, j'avais vraiment honte. Là, il y a eu vraiment une prise de conscience. Et les mêmes valeurs que j'avais retrouvées en voyage se représentaient, c'est-à-dire l'entraide, l'authenticité, le partage, la bienveillance. Et ça, ça a été vraiment clé parce que quand on n'y est pas confronté, on ne sait pas toute cette armée de médecins, de soignants, d'infirmiers qui se battent pour la vie des gens dans l'ombre. À ce moment-là, je me pose énormément de questions. Parce que même si je vois que je récupère un petit peu, je commence à bouger les mains, les pieds, un peu les jambes, je retrouve un petit peu de mobilité, je me demande vraiment ce que je vais devenir. Parce que certes, j'étais partie en voyage parce que je me posais énormément de questions et que je voulais un peu remettre de l'ordre dans ma vie. Mais là, pour le coup, ça avait complètement tout remis en jeu. Je me demande comment va être mon avenir, mes amis, si je vais pouvoir avoir une vie normale, entre guillemets, équilibrée avec des enfants, une vie sentimentale. Je me pose plein de questions parce que je n'ai jamais été confrontée à quelqu'un qui était en fauteuil roulant. Je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai pas d'exemple qui me permet de me projeter et de me dire qu'on peut très bien avoir une vie épanouie en fauteuil. Et là, ça va être l'étape d'après, quand j'arrive justement en rééducation. Post-réanimation, c'était un peu une étape transitoire de 4 mois à l'hôpital de Garches, qui a été vraiment une étape cruciale, parce que c'est à ce moment-là qu'on m'a sevré de mon appareil respiratoire, que j'ai gardé quand même 5 mois. Mes poumons étaient très touchés, le sont encore, mais j'ai pu retrouver cette fonction vitale, heureusement. J'ai beaucoup récupéré, on m'a même réappris à marcher, donc ce qui était incroyable, alors qu'on me disait depuis le départ que jamais je pourrais... ne serait-ce que bouger autre chose que la tête. On m'appelait même petit corps malade, donc en référence à grand corps malade qui a eu le même type d'accident, donc lui c'était un accident de plongeon. Et j'étais un peu la chouchoute parce que j'étais vraiment, j'avais déjoué tous les pronostics, et en fait même eux, les kinés, les médecins, hallucinaient de jour en jour des progrès que je pouvais faire en termes de marche, d'autonomie. C'était assez incroyable. Et c'est aussi pour ça que, et avec bien sûr le soutien de mes proches, que ça me portait, ça me tenait, et que je me suis jamais désespérée, et que j'ai jamais lâché, parce que déjà je pouvais pas, j'étais trop entourée pour lâcher, c'était impossible. Et même j'avais une évolution, donc j'avais une perspective en fait, vu que j'avais une lésion incomplète, j'avais une possibilité de récupération. Que je découvre en moi, c'est une extrême patience déjà parce qu'on n'a pas le choix, qu'on a besoin des gens pour tout faire, pour se brosser les dents, pour manger, pour tout, parce que pour utiliser mon téléphone, j'avais plus du tout accès à mon téléphone parce que mes bras bougeaient pas encore assez bien pour pouvoir accéder à l'écran. Et là, si on réapprend tout, j'ai réappris à écrire, pour le coup, j'ai fait tout de la main gauche parce que tout mon côté droit du corps ne fonctionne plus, donc mon bras droit ne fonctionne plus. En fait, ce qui était assez paradoxal, c'est que dans ma tête, c'était la course à la marche. Pour moi, je remarchais, bien sûr en étant toujours dépendant d'un fauteuil, mais je remarchais, donc j'étais guérie, entre guillemets, j'avais atteint le but ultime, c'est la marche. Alors que paradoxalement, j'étais pas du tout autonome. J'étais pas autonome pour me coucher, me lever, m'habiller, pour rien du tout. Et ce manque d'autonomie, ça c'est quelque chose qui a perduré. Ensuite, après Garches, direction l'hôpital des Invalides. Alors là, pour moi, c'était vraiment le Club Med de ma rééducation. J'avais plus de allocrânien, j'avais plus de trachéo, plus de Minerve. Toujours le fauteuil roulant, mais c'est parti vraiment juste pour du fun, pour de la performance physique, en fait, entre guillemets, parce que chaque effort demandait tellement d'énergie que c'était une course de fond et j'avais l'impression de revenir dans mes séances de sport qui étaient si régulières avant. Et c'était ce qui me poussait à me dépasser jour après jour. J'ai toujours eu un mental assez combatif et c'est vrai que malgré ce qui m'est arrivé, j'ai jamais eu vraiment de moment de down, j'ai jamais eu vraiment de moment d'abattement, de dépression comme j'ai pu l'avoir avant. En fait, c'est assez étrange, mais cet accident a complètement rebattu les cartes et j'ai l'impression que ça m'a empêché, entre guillemets, de revenir en fait dans ce monde parisien, dans mes travers, parce que peut-être qu'après ce voyage-là, j'aurais repris ma vie exactement comme je l'avais quittée et que j'aurais continué à avoir ce côté matérialiste, etc. Et là, c'est étrange, mais c'est comme si j'étais disqualifiée de cette course à la perfection, physiquement, perfection physique, parce que de toute façon, voilà, maintenant, le physique est un peu à mettre de côté et que j'avais une nouvelle mission et qu'il fallait que je m'exprime autrement. Après les Invalides, ça a été le parcours du combattant pour trouver un logement adapté. Et aux Invalides, c'est là que j'ai rencontré de nombreuses personnes dans ma situation, que j'ai pu aussi relativiser parce qu'il y avait vraiment tout type de handicap. Mais c'est aussi la confrontation à la vraie vie et à la rue, à l'hostilité de la rue. Parce qu'on n'est pas habitué, parce que dans les Invalides, tout est plat, tout est bien, donc le fauteuil est impeccable. Dans la rue, on a des trottoirs, des poubelles, des vélos sur les trottoirs. C'est vraiment très, très hostile comme environnement. En sortant, il y a ces problèmes d'accessibilité, mais également de regard des autres. Parce qu'il se trouve qu'en fait, aux Invalides, j'ai été confrontée qu'à des personnes qui étaient dans ma situation, qu'à mes proches ou des personnes qui viennent visiter les autres patients. Et pour la première fois, je vois le regard qu'on porte sur moi, des personnes qui me connaissaient ou non. Et là, c'est très compliqué. Donc à la fois, je suis très voyante et on me regarde, mais d'un autre côté, c'est contradictoire parce qu'on ne s'adresse pas à moi. Donc là, je ressens un petit peu un malaise, la peur aussi du handicap. Je pense que ça fait peur aussi parce qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est quelque chose qui est encore très tabou aujourd'hui. En fait, tous ces problèmes d'accessibilité, de regard des autres me renvoient en pleine tête à mon handicap, tout simplement. Et aussi contradictoire que ça puisse être, je me sens mieux maintenant qu'avant l'accident. Je me sens plus apaisée, plus sereine. Je me sens plus en compétition avec les autres au niveau du physique. Parce que maintenant, je me sens comme unique, en fait. Je me sens différente. Et c'est en ça que ma différence est une force aussi. Donc, je peux enfin sortir de l'hôpital après avoir fait plus de 2 ans et 2 mois d'hospitalisation. Donc j'étais très contente de sortir. Donc j'arrive chez moi. En amont, il faut savoir qu'il a fallu que je réorganise tout mon quotidien avec des aides parce que je voulais habiter seule, mais forcément, je suis dépendante pour m'habiller, me lever, me préparer, me doucher, etc. Donc ça a été mis en place en amont. Et c'est une toute nouvelle routine de devoir s'habituer à des nouvelles personnes, faire confiance, déléguer. C'est pas toujours facile, mais on s'y fait. Et de toute façon, c'est la seule condition pour avancer, donc pas le choix. Aujourd'hui, en fait, l'accident m'a permis d'accéder à des opportunités incroyables auxquelles j'aurais jamais pu prétendre, c'est-à-dire tourner dans la campagne publicitaire de la Française des Jeux, accéder à des défilés mode pendant la Fashion Week, piloter un exosquelette, rencontrer Brigitte Macron, par exemple, être invitée à une émission télé. Et aussi, surtout, j'ai joué dans une pièce de théâtre de Philippe Lelouch. Donc, ce sont des choses incroyables auxquelles j'ai eu accès et auxquelles j'ai osé prétendre, en fait. Et ça, je trouve ça assez incroyable. Avant, j'aurais été incapable de prétendre et d'aller vers ce genre de choses. Aujourd'hui, je m'y autorise. Finalement, cet accident m'a enlevé mon autonomie, m'a enlevé ma mobilité, mais m'a finalement libérée d'un énorme poids. C'est la pression physique que je m'imposais. Tout simplement, aujourd'hui, je suis complètement disqualifiée sur ce niveau-là. Et justement, ça me pousse à pouvoir m'exprimer d'une façon différente et à trouver une nouvelle utilité, un nouveau sens. Et maintenant, je suis guérie de cette performance physique à laquelle j'aspirais tout le temps. Ma reconstruction est passée aussi grâce à des associations, notamment comme les autres, que j'ai eu la chance de rencontrer alors que j'étais encore en centre de rééducation. En fait, c'est une association incroyable qui permet aux personnes qui ont un accident de la vie comme moi de se reconstruire et de rebondir dans la vie active. Que ce soit via un suivi social, des activités, des séjours à sensations fortes et des accompagnements au quotidien. Et c'est vraiment une association dans laquelle je m'investis encore aujourd'hui et qui a été clé dans ma reconstruction. Ma reconstruction passe aussi par une mission, en fait, dont je me sens investie. C'est d'aider à changer le regard sur le handicap et ce que je fais notamment via les réseaux sociaux, notamment Instagram et LinkedIn, et sur lesquels, en fait, j'essaie de déconstruire tous les préjugés, notamment toujours avec beaucoup d'autodérision et d'humour parce que c'est ce qui me caractérise, et en faisant beaucoup de sensibilisation. Et je pense que c'est vraiment important. En fait, finalement, ce drame, cette épreuve, aussi dure que ça a pu être et que ça peut l'être, finalement a donné un nouveau sens à ma vie et je me sens beaucoup mieux maintenant qu'avant. Même les proches me le disent. En fait, j'ai très très peu de moments où je me sens pas bien, je me sens beaucoup plus heureuse maintenant. Ouais, je me sens vraiment beaucoup plus apaisée, déchargée de toute cette pression de course à la performance physique, sportive. Aujourd'hui, je suis vraiment disqualifiée à ce niveau-là. Et c'est pour ça que ma nouvelle mission aujourd'hui, c'est de m'exprimer d'une façon différente, d'aider sur cette cause du handicap à mon humble niveau. Mais je pense qu'on peut faire bouger les choses tous ensemble avec de la sensibilisation. Et aujourd'hui, c'est ce que je cherche à faire. Alors en fait, un des gros challenges que j'aimerais réaliser et ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de me remettre à voyager. J'ai fait juste un petit voyage à Marrakech l'année dernière. Mais j'aimerais beaucoup, beaucoup retourner au Mexique, qui est pour moi un peu mon pays de cœur. Et pour ça, bien sûr, j'ai besoin de m'entourer. C'est pas un voyage que je peux faire spontanément comme je pouvais le faire auparavant. Mais c'est clairement un projet que j'ai à court terme, enfin, moyen terme. L'accident me fait aussi réaliser qu'en étant passé si près de la mort, que maintenant j'ai plus grand-chose qui peut m'arrêter et pourquoi pas réaliser des rêves, notamment en termes de voyage, de déplacement, de rencontres. Et oui, en fait, ce qui est important de retenir aussi, c'est que le handicap n'est pas une fatalité et qu'on peut très bien avoir une vie épanouie, même en fauteuil roulant.
Cet entretien a été réalisé par Clémentine Delagrange et monté par Stéphane Bidard. Vous avez aimé Les Rescapés ? Aidez-nous à nous faire connaître en nous laissant plein d'étoiles et de commentaires.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.